Bonjour, ici Marc, bienvenue au 78e épisode du bonheurpourtous.info, le podcast où je partage avec vous les meilleures informations que je trouve pour reprendre contact avec notre vraie nature, le bonheur. Aujourd'hui, la suite de la troisième partie du livre de l'Arcane Rose, La superstition la plus dangereuse, commencée à l'épisode 50. Je pense que si on veut enfin arriver à la fin des guerres, de l'esclavage qui, comme le montre ce livre, est plus étendu que jamais, la fin de la pauvreté, de la pollution, et enfin arriver à la paix dans le monde, et à la prospérité et au bonheur pour tous, il est absolument nécessaire de se libérer de cette terrible superstition. Oui, la plupart d'entre nous sommes esclaves, et on ne s'en aperçoit même pas. C'est pour ça qu'on gagne à peine de quoi vivre, qu'on a si peu de temps libre, que les prix augmentent autant, etc. Et ceux qui prétendent diriger me semblent tout autant bourrés de traumatismes émotionnels et ne sont pas heureux non plus, donc l'organisation actuelle de la société n'est vraiment bonne pour personne. Alors pour nous, et pour les générations à venir, réveillons-nous et comprenons comment faire pour vivre une vie tellement plus belle. Voici donc la suite du livre. Troisième partie, les effets du mythe sur les spectateurs, suite. La violence, deux poids, deux mesures. Le double standard dans l'esprit de ceux qui ont été endoctrinés dans l'autoritarisme, lorsqu'il s'agit de l'utilisation de la force physique, est énorme. Lorsque, par exemple, un agent de la force publique est filmé en train d'agresser brutalement une personne innocente et non armée, le débat porte généralement sur la question de savoir si l'agent devrait être réprimandé, voire perdre son emploi. En revanche, si un citoyen agresse un policier, presque tout le monde demandera avec enthousiasme, souvent sans même se demander pourquoi la personne a agi de la sorte, que cette personne soit mise en cage pendant de nombreuses années. Et si une personne recourt à la force meurtrière contre un agent de la supposée autorité, presque personne ne se préoccupe de demander pourquoi elle l'a fait. Dans leur esprit, peu importe ce que l'agent de l'autorité a fait, il n'est jamais acceptable de tuer un représentant du dieu appelé gouvernement. Pour les croyants en l'autorité, rien n'est pire qu'un tueur de flics, quelle que soit la raison pour laquelle il l'a fait. En réalité, l'utilisation de la force meurtrière contre quelqu'un qui prétend agir au nom de l'autorité est moralement identique à l'utilisation de la force meurtrière contre n'importe qui d'autre. Un acte d'agression ne devient pas plus légitime ou juste simplement parce qu'il est légalisé et commis par ceux qui prétendent agir au nom de l'autorité. Il est justifié d'utiliser la force nécessaire pour arrêter ou empêcher un acte d'agression, que l'agression soit légale ou non et que l'agresseur soit un agent d'exécution de la loi ou non. Bien sûr, les risques liés à la résistance à une agression légale sont souvent beaucoup plus élevés, mais cela n'enlève rien à la moralité et à la justification. Bon nombre des raisons invoquées aujourd'hui par les forces de l'ordre pour capturer des personnes par la force, comme le fait de participer à des manifestations publiques pacifiques sans avoir obtenu un permis, ou de photographier des forces de l'ordre ou des bâtiments gouvernementaux, ou de ne pas se soumettre aux divers contrôles et interrogatoires des forces de l'ordre, n'ont pas l'ombre d'une justification si l'on fait abstraction du mythe de l'autorité. En tant que tel, résister à cette voyoucratie fasciste, même s'il faut pour cela recourir à la force meurtrière, est moralement justifié, bien qu'extrêmement dangereux. Mais la plupart des gens sont littéralement incapables d'envisager une telle idée. Même lorsqu'ils reconnaissent une oppression injuste, ils imaginent que la réponse civilisée consiste à laisser l'injustice se produire, puis à supplier plus tard une autre autorité de faire amende honorable. Face à une agression et une oppression légales, il n'y a que deux possibilités. Soit le peuple est obligé de laisser les forces de l'ordre lui infliger toutes sortes d'injustices et d'oppressions, et se plaindre ensuite, soit le peuple a le droit d'utiliser la force nécessaire pour mettre un terme à ces injustices et oppressions. Ici Marc, je veux juste rappeler qu'avant d'avoir recours à la force, on peut essayer la parole, comme l'explique Marshall Rosenberg dans les premiers épisodes du podcast. Dire par exemple que quelqu'un a le droit de ne pas être soumis à des perquisitions et saisies abusives par des agents du gouvernement, comme le stipule le 4e amendement, ne signifierait rien si la victime d'une telle tyrannie était obligée de l'autoriser sur le moment et de s'en plaindre par la suite. Le « droit » de se libérer d'une telle oppression implique logiquement le droit d'utiliser la force nécessaire pour empêcher cette oppression de se produire, même s'il faut pour cela tuer des policiers. Mais cette idée terrifie ceux qui ont été formés à toujours s'incliner devant l'autorité. La plupart de ceux qui parlent de droits inaliénables sont encore réticents à l'idée de défendre par la force des droits contre les assauts de l'autorité. Dire que quelqu'un a le droit de faire quelque chose, tout en affirmant qu'il ne serait pas justifié de défendre ce droit par la force contre les incursions du gouvernement, est une contradiction. En vérité, ce que la plupart des gens appellent des « droits », ils le perçoivent en réalité comme des privilèges accordés par le gouvernement, qu'ils espèrent voir autorisés par leur maître, mais qu'ils n'ont aucune intention de protéger par la force si ces « droits » sont proscrits par le gouvernement. Par exemple, avoir le droit inaliénable de dire ce que l'on pense, le droit à la liberté d'expression, signifie que la personne a également le droit d'utiliser tout niveau de violence nécessaire, jusqu'à la force mortelle, pour se défendre contre les agents du gouvernement qui tentent de la faire taire. Bien que ce point mette très mal à l'aise les loyaux défenseurs de l'autorité, le concept même de droit inaliénable d'une personne à faire quelque chose implique également le droit de tuer tout agent de la force publique qui tente de l'empêcher de le faire. Mais en vérité, il n'y a pratiquement rien que le gouvernement puisse faire, qu'il s'agisse de censure, d'agression, d'enlèvement, de torture ou même de meurtre, qui pousserait l'étatiste moyen à prôner une résistance violente et illégale. Le lecteur est invité à tester la profondeur de sa propre loyauté envers le mythe de l'autorité, en se demandant ce qui devrait se passer avant qu'il ne se sente justifié de tuer un agent de la force publique. Les responsables de l'application de la loi font constamment monter les désaccords au niveau de la violence, chaque fois qu'ils essaient d'arrêter quelqu'un, de pénétrer de force dans le domicile d'une personne ou de s'emparer par la force de la propriété d'une personne. Les autorités continuent à augmenter le niveau de violence qu'elles utilisent jusqu'à obtenir ce qu'elles veulent. Le résultat est que le peuple, à moins qu'il ne soit prêt à s'engager dans une révolution ouverte contre l'ensemble du système, se pliera tôt ou tard à la volonté de la classe dirigeante ou sera tué. Et bien que les mercenaires de l'État utilisent toujours la force ou la menace de la force pour soumettre et assujettir les gens ordinaires, dès que leurs victimes prévues répondent à la violence par la violence, la plupart des spectateurs identifient instantanément la victime de l'agression, celle qui a utilisé la force uniquement pour se défendre contre une attaque, comme le méchant. Ce double standard flagrant, l'idée qu'il est acceptable pour l'autorité de commettre régulièrement des actes d'agression violents, mais qu'il est horriblement mauvais pour le commun des mortels de répondre par la force défensive, montre à quel point la croyance en l'autorité peut déformer la perception de la réalité par les gens. Ironiquement, en considérant d'autres lieux et d'autres époques, presque tout le monde accepte et même loue l'utilisation de la violence illégale, y compris la violence mortelle, contre les agents du gouvernement. Peu de gens insisteraient encore sur le fait que les Juifs qui vivaient dans l'Allemagne de 1940 auraient dû continuer à essayer de travailler dans le système, en votant et en adressant des pétitions au Troisième Reich pour obtenir justice. Au contraire, ceux qui se sont cachés illégalement se sont enfuis ou ont même résisté par la force, comme ce fut le cas dans le ghetto de Varsovie, sont aujourd'hui considérés par presque tout le monde comme ayant eu raison d'agir ainsi, même s'ils étaient techniquement des criminels, des contrevenants à la loi et même des tueurs de flics. Mais les autoritaristes, à leur propre époque et dans leur propre pays, non seulement continuent à condamner tous ceux qui tentent illégalement d'éviter l'oppression ou d'y résister, mais se réjouissent de la souffrance de ces personnes lorsqu'elles sont punies par le gouvernement. Se réjouir de la punition d'un fraudeur fiscal, par exemple, comme le font de nombreux Américains, c'est comme si un esclave se réjouissait de la flagellation d'un compagnon d'esclavage qui a tenté de s'échapper. Il peut y avoir là un aspect de simple jalousie, le sentiment que, si un sujet a été victime, il n'est pas juste qu'un autre ait échappé à une telle souffrance. Cela contribue au fait que les contribuables, c'est-à-dire ceux qui ont été extorqués de force par la classe dirigeante, expriment souvent de l'agressivité à l'égard de quiconque a évité d'être extorqué de la même manière. Curieusement, les victimes de vols légaux s'imaginent souvent qu'elles sont vertueuses parce qu'elles ont été volées et méprisent ceux qui, pour une raison ou une autre, n'ont pas été volés. Le danger de l'inaction. Celui qui considère que désobéir aux lois est intrinsèquement mauvais, quelle que soit la loi, peut s'empresser de signaler aux autorités toute activité illégale dont il a connaissance, même si ces activités ne font pas de victimes et ne constituent ni de la violence ni de la fraude. De même, ceux qui siègent dans les jurys des tribunaux gouvernementaux, même s'ils considèrent que la désobéissance à l'autorité, enfreindre la loi, est intrinsèquement immoral, sont susceptibles de donner leur bénédiction au fait de punir quelqu'un, parfois très sévèrement, pour avoir fait quelque chose qui n'a fait de mal à personne et n'a constitué ni une fraude ni une violence. Dans le cas du délateur et du juré, cependant, de telles actions sortent du rôle de simple spectateur et le font entrer dans celui de collaborateur de l'oppression. Les dommages causés par la croyance en l'autorité chez les spectateurs de l'oppression proviennent plus souvent de leur inaction que de leur action. À maintes reprises, des oppressions, petites et grandes, ont été commises sous le nez de personnes fondamentalement bonnes qui n'ont rien fait pour y remédier. Dans une certaine mesure, c'est le résultat d'une simple préservation de soi. Une personne peut éviter de s'impliquer simplement parce qu'elle craint pour sa propre sécurité. Mais les expériences de Milgram ont montré très clairement que, même en l'absence de toute menace sous-jacente pour eux-mêmes, la plupart des gens se sentent irrésistiblement obligés d'obéir à l'autorité, même lorsqu'ils savent que ce qu'on leur dit de faire est mauvais et nuisible pour les autres. Et s'il leur est difficile de désobéir à une autorité perçue, il leur sera encore plus difficile, voire impossible, de se résoudre à intervenir lorsqu'une autorité exerce sa volonté sur quelqu'un d'autre. Le résultat de la formation des spectateurs à la passivité, à l'obéissance et à l'absence de confrontation est visible dans les nombreux cas à travers le monde et l'histoire où des dizaines, des centaines, voire des milliers de spectateurs, tels des zombies, assistent à l'agression ou au meurtre d'innocents par des agents de l'autorité. Même aux États-Unis, le prétendu pays de la liberté et de la bravoure, des vidéos continuent de montrer des brutalités policières commises sous les yeux d'une foule de spectateurs qui se contentent de regarder sans lever le petit doigt pour protéger leurs semblables contre les maux commis au nom de l'autorité. Voilà, c'était l'épisode d'aujourd'hui. Si vous aussi, vous voulez que ce dont on parle ici arrive aux oreilles de plus de monde, parlez-en autour de vous, faites des heureux, et laissez un commentaire sur iTunes, s'il vous plaît. Ça aide les gens à trouver ces informations plus facilement. Sur bonheurpourtous.info, il y a un lien qui vous amène au podcast dans iTunes. À l'épisode prochain, avec la suite de la troisième partie de La superstition la plus dangereuse, les effets du mythe sur les défenseurs des droits de l'homme.